Je parlais de la croix et du monde actuel, parce que dans le sujet tel qu'il avait été présenté, il était question seulement de la croix et du monde. Du monde, non pas au sens de la création de Dieu, non pas au sens du cosmos, n'est-ce pas, qui trouve dans la croix son axe et son sens, mais du monde au sens de ce réseau de passions et d'idoles dont parlent les pères et dont parle le Nouveau Testament, plutôt, si j'ai bien compris, ce monde que le monde. Je crois qu'il faut partir de cette lettre que Paul a adressée aux chrétiens de Corinthe lorsqu'après son demi-échec à l'Aréopage, à Athènes, il a mis l'accent sur le scandale de la croix. Nous prêchons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, Juifs comme Grecs, c'est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Pour approcher ce sujet immense, un plan, dirais-je, un plan en forme de croix, c'est imposé à moi, c'est-à-dire un plan en quatre parties avec un centre. Je voudrais partir du monde tel qu'il a été décrypté, déchiffré par la présence même de Jésus, des reculs du monde tel qu'ils se sont manifestés au pied de la croix du Christ. Je pense que vous m'entendez bien, au fond, vous protestez si vous n'entendez pas. Donc, ce sera ma première partie, dirais-je, les refus contemporains. Mais en tant que chrétiens, nous sommes d'une certaine façon, nous aussi, contemporains de la croix. Et ces refus sont des chiffres pour comprendre toute situation depuis la croix du Christ. Je parlerai ensuite de ce que j'appellerai les croix partielles, et quelquefois partiales. Et au centre, quelques mots pour pressentir par rapport à ces refus et surtout par rapport à ces croix partielles, le sens proprement chrétien de la croix. Dans une troisième partie, j'évoquerai un certain nombre de, peut-être faut-il le dire, de trahisons, non pas de l'Église dans sa profondeur et sa plénitude, mais du monde chrétien par rapport à la croix. Et la quatrième partie aboutira bien entendu au refus d'aujourd'hui. Donc d'abord, au pied même de la croix, les refus. Si le Christ est crucifié, c'est parce qu'il y a massivement deux refus. Le refus juif et le refus romain. Quand on dit le refus juif, il faut s'entendre. Car au moment de la croix du Christ, tout le monde est juif. Dans le drame qui se joue, comme dit Péguy, le peuple juif est alors théâtre d'humanité. Juifs les bourreaux, juifs la victime, juifs les apôtres, n'est-ce pas? Mais, petit à petit, le peuple juif, dans son destin spirituel, a précisé ce refus. Pourquoi? Eh bien, il semble que, et on le voit à travers tout le destin terrestre de Jésus, les juifs défendent la pureté de Dieu, la pureté du Messie, la pureté de l'homme religieux. Et c'est pourquoi il crucifie, ou il demande la crucifixion, il demande aux Romains de crucifier Jésus. Ils défendent la pureté de Dieu. Il y a chez eux, chez les plus sages d'entre eux, chez les plus purs d'entre eux, les pharisiens. Les pharisiens étaient les juifs les plus respectueux de la loi, n'est-ce pas? Il y a un sens très fort de la transcendance de Dieu, de la transcendance du Dieu personnel, sens très fort qui a été repris par la suite, et jusqu'à aujourd'hui, par exemple, par l'islam. Par l'islam, pour qui annoncer la Trinité, c'est associer à Dieu ce qui n'est pas Dieu. Pour les musulmans, les chrétiens sont des associateurs. Et ce sens de la transcendance de Dieu, dans le judaïsme, dans l'islam, il joue à fond contre le grouillement, n'est-ce pas, la multiprésence du divin dans le monde païen. Plutôt que de penser au monde méditerranéen de l'époque, qui pour vous est archéologique, pensez par exemple à Bénarès. À Bénarès, n'est-ce pas, avec ces temples où la présence est là, mais multiforme, ambiguë, n'est-ce pas? Et puis tout à coup, la pureté d'un minaret. La pureté d'un minaret qui proclame que Dieu seul est Dieu, que Dieu est totalement transcendant. Pour ces juifs, pour ces pharisiens, il était au fond monstrueux de penser que le Dieu transcendant, le juge terrible, puisse se faire homme. Toi qui es homme, tu te fais Dieu. Voilà le reproche fait à Jésus. Il est impossible pour eux de comprendre la grande parole de Jésus dans l'évangile de Jean. Moi et le Père, nous sommes un. Et quand Jésus affirme devant le Sanhédrin, devant les plus hautes autorités de son peuple, qu'il est le Fils de Dieu, dans un sens privilégié, au sens juridique justement, ou qu'il est le Fils de l'homme, avec ce que ça signifiait dans le contexte juif de l'époque, le Fils de l'homme, ce n'est pas comme nous le disons souvent, et c'est vrai sans doute, l'homme, mais c'est l'homme céleste. Le Fils de l'homme, c'est l'homme céleste, celui qui doit venir à la fin des temps. Eh bien, la réponse immédiatement, c'est « il a blasphémé ». Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Pour ces pharisiens, Dieu, il veille jalousement sur la pureté de leur Dieu. Dieu, il l'enferme en quelque sorte dans sa majesté. Il l'enferme dans sa toute-puissance. Il l'enferme dans sa transcendance. Que Dieu puisse souffrir et mourir dans la chair. Et pour eux, un paradoxe insoutenable, et pour que la chose d'ailleurs soit proclamée par l'Église elle-même, il a fallu de très longs conflits. C'est seulement, n'est-ce pas, au Concile de Constantinople, qui s'est tenu à l'époque de Justinien, que ces grandes expressions affirmant que, oui, c'est une personne divine qui a souffert passion dans la chair, c'est une personne divine qui a souffert la mort sur la croix. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un véritable scandale. Il y a des pharisiens d'église constamment. Ce Dieu, notre Dieu, qui est à la fois l'abîme que nous ne pouvons pas aborder, qui dépasse nos mots, nos images, Dieu au-delà de Dieu, ce silence, cet océan sans limite, et que en même temps il soit le crucifié, que en même temps il soit le défiguré, qu'en même temps il soit l'homme de douleur. En même temps, ils connaissent cette paradoxale faiblesse et que finalement, au-delà de toute la grandiose pédagogie du Sinaï et de l'orage, un moment nécessaire, ce qui se révèle à nous, ce soit ce que Maxime le Confesseur et Caragilas appellent l'amour fou de Dieu pour l'homme, l'amour sans limite. Eh bien, cela, c'est un scandale. Il faut défendre la pureté de Dieu. Il faut défendre aussi la pureté de son envoyé, la pureté de son Messie, la mort subie hors de la porte de la cité, comme dit l'Épître aux Hébreux, la mort sur le bois de malédiction. Et c'est cela pour le Juif, être crucifié, maudit par Dieu, celui qui pend au gibet, mourir ainsi, c'est être retranché de Dieu. Mourir ainsi, hors de la cité sainte, c'est être retranché de son peuple, ses faiblesses, ses défaites, ses malédictions. Et comme dit l'apôtre dans la lettre aux Corinthiens, c'est scandale. Comment admettre que cet homme, défiguré, souillé de sang et de crachat, livré par les plus hautes autorités de son peuple, du peuple élu, aux païens pour qu'ils le crucifient, comment admettre qu'il soit, sinon d'une manière dérisoire, comme sur les cryptos imposés par Pilate, qu'il soit le roi des Juifs, qu'il soit le Messie d'Israël, comment admettre qu'il soit Dieu, qu'il soit Dieu lui-même, qu'il soit le Créateur tout-puissant, qui pouvait écraser Job de sa puissance de Créateur, qu'il soit devenu Job, Dieu devenu Job, Dieu devenu un maudit, Dieu mort, Dieu à l'enfer. Et là, le paradoxe de l'amour qui ne peut être reconnu que par l'amour. Et l'amour qui le reconnaît, ce ne sont pas les pharisiens d'abord, vous le savez, ce sont les brisés, ce sont les méprisés, ce sont les prostituées, ce sont les publicains, c'est le brigand à la droite de la croix. Les juifs demandent du miracle, dit encore Paul dans cet épître. Les juifs demandent que le roi d'Israël, si tu es roi d'Israël, descende de ta croix, qu'il descende de sa croix. Alors, ils croiront en lui. Ici est fondé le mystère de la liberté de l'homme. Personne n'était obligé de croire à ce roi dérisoire. Combien parmi nous, au fond, restent comme ces pharisiens? Car il s'agit aussi de préserver la pureté de l'homme religieux, le pharisien, le juste, celui qui se met à part, celui qui se met à part de l'impureté, celui qui obéit à la loi, celui qui assure ainsi son salut et qui a la certitude de son salut. Or, ce que demande le crucifié, ce n'est pas la justice de la loi. Et saint Paul, pharisien lui-même, mais parmi les plus grands, ne cesse de le marteler. Ce n'est pas la justice de la loi, mais c'est le libre amour, mais c'est la libre confiance, mais c'est la reconnaissance de notre état de séparation et d'impuissance. Et c'est donc la foi. Ici, il faudrait rappeler l'étonnant épisode de la femme adultère, si insupportable pour l'homme religieux au sens pharisien, qu'il manque dans plusieurs manuscrits. Les copistes n'osaient pas, en quelque sorte, le rapporter, le copier. La femme adultère menée devant Jésus, et la réponse de Jésus, que celui qui n'a jamais péché, le premier lui jette la pierre. Tous sont séparés, tous sont adultères. L'état de séparation est tel qu'il ne peut être détruit que par la croix. Il y a le refus juif et il y a le refus romain. Ici, il s'agit de préserver une autre loi, celle de la terre, celle de l'histoire humaine dans sa puissance collective, celle de l'histoire humaine dans son efficacité terrestre. La Judée est une région inquiétante pour les Romains. Il y a beaucoup de maquisards, il y a beaucoup de guérilleros et zélotes qui entourent, à certains moments, on le voit bien, n'est-ce pas, la Jérusalem de Jésus, on crucifié par milliers à cette époque-là, on craint les mouvements populaires, et Rome répond toujours massivement en écrasant, en exécutant les meneurs, les agitateurs, tout ce qui bouge, tout ce qui dérange. On les exécute, on les crucifie. C'est un supplice qui venait probablement des Carthaginois, ou plutôt qui venait d'Orient et que Rome a connu par Carthage, un supplice réservé aux esclaves et ensuite étendu aux condamnés, aux insurgés des provinces lointaines. La mort sur la croix, c'était la mort infamante par excellence. La mort de l'esclave criminel, même pas un homme, une chose, la mort du lointain sujet révolté, lui aussi, une chose pour Rome, pour le centre du monde, et les honnêtes gens ne devaient même pas parler de tout cela. Et c'est ainsi qu'on accuse Jésus devant Pilate. Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, et se prétendant Messie, roi. Voilà le mot roi qui va inquiéter les Romains. Si tu me relâches, tu n'es pas l'ami de César. Qui se fait roi s'oppose à César. Et il est très curieux de voir comment les Romains vont mettre en série, en quelque sorte, Jésus, le dérangeur divin, le grand dérangeur, avec tous ces dérangeurs humains, avec ses zélotes, avec ses partisans, parmi lesquels Jésus ne s'était jamais laissé ranger, mais parmi lesquels il allait et il venait. Jésus n'est pas l'homme qui a peur d'un parti ou d'un autre. Il va et il vient parmi les guérilleros de l'époque et parmi eux, quelquefois, il trouve un homme. Il le saisit. Et aussi, il va parmi les collaborateurs de l'époque. Les publicains, c'était les collaborateurs. C'était les gens qui prélevaient l'impôt pour le compte de l'Empire romain. Et par là même, extraordinairement méprisé. Jésus est avec les uns. Il est avec les autres. Mais chaque fois, c'est à la personne qu'il s'adresse. C'est une personne qu'il appelle, une personne qu'il saisit. Jamais il s'est laissé ranger dans une catégorie historique. Et là, nous sentons, au fond, une racine plus profonde dans le refus romain. C'est cette blessure mortelle que va faire la croix du Christ à l'orgueil et à la suffisance des puissants de la terre, à l'orgueil et à la suffisance de l'histoire, à l'orgueil de la puissance collective. C'est la révélation de l'irréductible de la personne, de l'homme comme image de Dieu, appelé à un destin éternel, contre l'auto-déification de César, Kyrios Kaisar. Il fallait adorer César. On l'adorait avec scepticisme au 1er siècle ou au 2e siècle. Ça n'était pas totalitaire, mais tout de même, il fallait quelques grains de sens pour montrer qu'on était un bon citoyen. Contre l'auto-déification de César et de tous les Césars à travers l'histoire, individuel ou collectif, les Césars qui veulent que l'histoire réussisse et que la Terre soit heureuse dans sa propre efficacité, il y a là l'affirmation irréductible d'une autre dimension de l'homme, la dimension proprement personnelle, liée à l'amour, liée à la mort, liée à la secrète victoire de l'amour sur la mort, liée à la transformation des structures de la personne, liée donc à la véritable liberté, liée à l'espérance du royaume où tout sera transfiguré, mais à travers des libertés personnelles. Le refus romain de la croix, c'est donc le refus de se découvrir irrémédiablement séparé, irrémédiablement asphyxié par un mal infiniment plus radical, infiniment plus redoutable que le mal social, que le mal historique, qui n'en est que la monnaie. La monnaie, il y a des changeurs diaboliques perpétuellement pour faire cette monnaie-là, mais il faut savoir où sont les racines. C'est donc le refus de la transformation intérieure comme clé de toutes les autres transformations. Alors il n'y a pas d'autre bonheur que celui de la terre, pacifié, maîtrisé, selon un scepticisme élégant. Qu'est-ce que la vérité ? Dit aussi celui qui va envoyer Jésus à la croix. Et déjà, cependant, pointe l'inversion totale, totalitaire, vers le terrestre, l'inversion vers le terrestre du besoin d'absolu dans ce Kyrios Kaisar, dans cette adoration de la déesse Rome, dans ce Kyrios Kaisar, qui est la clé de l'exécution du Christ dans son immédiateté historique, comme dans les 3 siècles qui suivent et dans tous les siècles. Ce sera la clé de tant de martyrs, ceux qui disaient et ceux qui disent Kyrios Christos, le Christ est le Seigneur, le Dieu, et non pas le César. Un peu plus loin, si nous regardons le contexte culturel de la mort du Christ et du destin du christianisme, se profilent ce que j'appellerais en second lieu les croix partielles. Ces croix partielles, j'en vais deux pour schématiser. Celle que j'appellerais la croix gnostique, je vais m'expliquer, et celle que j'appellerais la croix tragique. La croix gnostique, mais ce qu'est la gnose dans l'Antiquité, cette revendication d'une connaissance qui est simplement la prise de conscience par certains privilégiés qui sont en quelque sorte des étincelles de la divinité, les autres sont seulement de la sentimentalité ou seulement de la viande, n'est-ce pas? Et eux, n'est-ce pas, sont de parcelles d'or, ça n'était roulé dans la boue. Cette croix gnostique, ça déborde un peu le mot gnose au sens proprement historique. C'est toute une dimension de l'hellénisme, et je dirais que nous trouvons cette croix jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans la métaphysique et la spiritualité de l'Inde. C'est, pour schématiser, la croix conçue comme pur et simple déchirement du monde apparence et comme totalisation dans un divin impersonnel. Tout cela est abstrait, je vais expliquer après. Il s'agit de rejeter comme illusion, de rejeter comme pure apparence l'existence terrestre avec ses contradictions pour se plonger dans un divin impersonnel, pour tout résorber dans un absolu impersonnel. Le divin, en quelque sorte, est crucifié dans l'existence universelle. La croix salvatrice arrache l'existence universelle à sa multiplicité qui est conçue comme nécessairement mauvaise. Le multiple est conçu comme mauvais pour la résorber dans l'unité. Toute multiplicité est détachée de l'unité d'une manière qui inquiète. Seule l'unité est vraiment réelle. La différence entre Dieu et le monde, la différence entre l'unité et la multiplicité, c'est alors la différence, qui n'en est pas une en définitive, entre le réel et l'apparence. Et la voie de la rédemption, c'est de renoncer à la diversité, à la complexité, aux tensions, aux contradictions, aux différences de l'existence terrestre, pour découvrir en chaque chose l'essence divine une, identique. C'est en quelque sorte le refus d'aimer l'autre dans sa particularité. L'amour, c'est la fidélité à ce que l'un appellera le soi de l'autre. Ce n'est pas pour l'amour de la femme que l'homme aime sa femme, c'est pour l'amour du soi. Ce n'est pas pour l'amour de l'enfant que l'homme aime l'enfant, c'est pour l'amour du soi. Et le soi de l'autre est radicalement identique avec mon propre soi. Aimer, c'est donc retrouver l'identité absorbante de l'unique. Et il n'y a que l'unique, en définitive. Tout le reste est jeu, tout le reste est illusion, tout le reste est apparence. Aimer, c'est en quelque sorte la compassion pour le soi crucifié, crucifié dans l'apparence de l'autre, crucifié en toutes choses. Et c'est là que, en quelque sorte, il faut sauver le sauveur. C'est l'Inde qui a suivi ce chemin sous sa forme la plus radicale. Mais les voies du salut chez les Grecs, dans l'Antiquité, même quand ils reculaient devant les conséquences ultimes, celles que les Asiatiques alors ont saisies et ont approfondies, n'est-ce pas ? Tout de même, les voies du salut chez les Grecs désignent souvent le même but. Je ne veux pas ici entrer dans des précisions, mais on pourrait penser au monisme de Parménide et aussi à la conception platonicienne. Au fond, après tout, pour Platon, l'existence incarnée est un reflet et il s'agit de sauver l'âme immortelle, après tout. Ou bien c'est dans le stoïcisme l'idée du feu cosmique, dont l'individu n'est qu'une étincelle qui doit retourner au feu dont elle provient. Ou bien dans le néoplatonisme, l'idée que tout est émanation. Tout, en quelque sorte, se déboit, n'est-ce pas, par une série d'émanations successives. Et le processus salvateur sera alors un processus de résorption inverse. Résorber la matière dans l'âme, l'âme dans l'esprit, et l'esprit dans l'un, dans l'unité transcendante, qui seul est finalement réel. Et là, nous avons alors le symbolisme universel de la croix, qu'on trouve partout, tel qu'il a été, par exemple, étudié par René Guénon. Et la croix, à ce moment-là, désigne, dirais-je, le déploiement du monde à partir d'un centre, et la résorption du monde dans ce centre. Ou bien vous concevez la croix, si vous voulez, avec toutes les dimensions de l'espace. Alors ce qui compte, c'est le centre. Le centre éclate, éclot dans toutes ses dimensions, et toutes ses dimensions se résorbent en lui. Ou bien vous concevez que l'axe de la croix est l'axe du monde. Alors la résorption se fait dans cet axe. C'est un thème tout à fait universel, et qui implique l'idée que le monde n'est pas une création, mais qu'il est seulement une manifestation, qu'il est une sorte de crucifixion d'un être divin, d'un homme céleste, d'un animal céleste dans les mythes. Par exemple, dans les cultes orientaux répandus dans l'Empire romain, il y avait le culte de Mitra et le monde apparaissait comme la mise à mort d'une sorte de taureau divin, n'est-ce pas, par le héros. Mitra mettait à mort le taureau, et c'est pourquoi pour entrer dans la secte mitraïque, on devait subir le baptême par le sang du taureau. Le sang, on a des représentations où on voit un taureau mis à mort qui perd son sang, et de son sang naissent les plantes, les eaux, les animaux, n'est-ce pas, et toute la création. Et à ce moment-là, vous voyez, la vie spirituelle, c'est une sorte de résurrection à travers l'homme libéré de ce Dieu ainsi crucifié dans la multiplicité du monde. Le Christ ici n'est que le symbole de ce Christ intérieur que chacun est appelé à devenir. L'autre croix partielle, c'est la croix tragique. La croix sans résurrection. La croix comme acceptation pure de la contradiction. Il s'agit ici, à l'inverse de la démarche précédente, de prendre au sérieux dans son poids de réalité, la contradiction de l'existence. Seul le tragique, seule la contradiction acceptée donne à l'existence sa grandeur et sa profondeur. Le tragique, seul permet à l'homme de sculpter sa propre statue. Et ce n'est pas n'importe quelle douleur de hasard, n'importe quelle douleur qu'on pourrait, avec un peu de chance, éviter, mais la douleur que la destinée humaine comporte essentiellement. Il y a là une tension irréductible, et là réside le sublime. Là réside la sublimité incomparable que ni l'animal, ni le Dieu d'ailleurs, ne peuvent atteindre. C'est l'incomparable destin de l'homme, de se trouver exposé à tous les abîmes. Destin qui, dans la tragédie shakespearienne, marquée, il est vrai, par le sens chrétien de la personne, nous fait tressaillir devant l'énigme qui s'appelle l'homme. Dans la tragédie grecque, ou bien dans les vieux récits de la mythologie germanique, la situation tragique est seule capable de mettre l'homme en valeur dans toute sa pureté. Et même le monde des dieux ne peut être que le reflet de ce qu'il y a sur terre de plus sublime. Le royaume des immortels est un royaume de combattants. Le royaume des immortels est ravagé par des combats mortels. Il est plein de batailles, il est plein de défaites. Et ce ne sont pas les doctrines de l'absorption qui pourraient les apaiser. Les dieux et les hommes sont soumis également au destin, et le destin doit être affronté dans un combat nécessairement sans issue. On ne se résorbe pas dans l'impersonnel, on se brise glorieusement contre lui. Le héros tragique peut même accepter, dirais-je, une croix sacrificielle. Pensez en Antigone. Je ne suis pas venu pour la haine, mais pour l'amour. Mais c'est une croix sans résurrection. Au terme de la tragédie, il y a toujours sur la scène le héros mort, le héros ensanglanté. L'éternisation du combat inhérent à l'existence, vous la trouvez aussi dans de grandes conceptions pré-socratiques, chez Héraclite, chez Empédocle. Et il faut sentir là certains types d'homme, un homme qui, éprouvé par la souffrance, éprouvé par l'adversité, apprend à aimer le foyer des douleurs qui le purifient et à mépriser toute harmonisation facile. C'est l'amor fati, l'amour du destin stoïcien. Et dans la pensée moderne, c'est Nietzsche. Mais c'est Nietzsche qui oppose à tout escamotage de la douleur l'éternel retour, où tout instant de douleur est tellement voulu, tellement accepté, tellement aimé, que je dois lui mettre, il reviendra un nombre indéfini de fois, et que je dois lui dire oui avec joie, dire oui à tout ce qui affermit et exalte. Il y a autant de sagesse dans la douleur que dans le plaisir, comme lui, elle fait partie des forces de premier rang qui maintiennent l'homme. En opposition à la voie de la résorption qui veut dès l'origine extirper la douleur et pour cette raison s'attache à annihiler la soif. Dans la croix de réintégration, il y a quelque chose que nous retrouvons dans la croix chrétienne. Comme la croix de réintégration, la croix chrétienne est un passage, une bâche, par que dire passage, du créé en Dieu. Mais le créé n'est pas résorbé, il est transfiguré. Et la diversité n'est pas en soi mauvaise, elle est bonne. Ce qui doit être détruit, c'est le démoniaque. Mais ce n'est pas la réalité diverse, ce n'est pas l'autre. Comme dans la croix tragique, par ailleurs, il y a une prise au sérieux de la tension, une prise au sérieux du combat. Il y a, surtout dans la grande tradition orthodoxe, ce sens de la croix et de la rédemption comme le combat super-héroïque du lion de Juda contre les puissances du chaos et de l'enfer, la victoire sur la contradiction du péché par l'introduction en Dieu même de cette contradiction. La passion du crucifié est enfoncée en Dieu même. C'est une passion de Dieu pour le monde et elle révèle combien Dieu est engagé dans le destin de sa création. Mais surtout, et c'est là que le sens de la croix se différencie radicalement des croix partielles que j'évoquais tout à l'heure, l'événement de la croix où s'unifie l'homme et Dieu, est un événement qui se joue au sein de l'histoire. Jésus vit, meurt et vit simultanément le tragique de l'histoire, le tragique de la condition humaine assumée, et la victoire sur le tragique et sur notre condition de mort, parce que rien en lui ne peut séparer l'humain du divin. Et ici, la synthèse christique se distingue de tous les mythes, qu'ils soient de réintégration ou qu'ils soient de tragédie. culmine à la résurrection. Parce que la croix culmine à la résurrection du Christ et des hommes, à la résurrection du mort et des morts, de tous les morts. Et c'est là que se concentre l'annonce chrétienne. C'est là que se dispose l'annonce chrétienne. Autour de ce point unique, tout le reste tourne autour. L'incarnation, la vie de Jésus, son enseignement, sa passion, son ascension, l'effusion de l'esprit, l'avènement glorieux. Au centre, la croix, résurrection. Il ne peut y avoir, je pense, aucun autre chemin, si valable soit-il, pour assumer dans l'éternité de Dieu la finitude et la temporalité de l'homme dans toute sa densité. Seule la résurrection du Christ comme homme maximum et seule la résurrection des morts peut réaliser cela. Le crucifié devient la source de l'esprit, la source du souffle vivifiant. Et désormais, la voie de l'homme vers Dieu, la voie de l'homme vers l'unité de Dieu ne peut plus se distinguer de celle de ce fils de l'homme qui était fils de Dieu, de celle de ce Dieu fait homme qui un jour est mort d'amour pour tous sur la croix, mort et ressuscité, mort nous ressuscitant, nous prenons dans son corps de vie, de feu, d'esprit. Dans la voie chrétienne, l'homme n'est pas vaincu. Il n'est pas vaincu au jeu par Dieu, comme dans la voie de la résurrection. Il est pris au sérieux par Dieu, dans sa différence même, puisque Dieu s'incarne. L'homme n'est pas non plus porté à l'absolu, dans sa différence tragique, qui deviendrait un combat des dieux, parce que l'esprit lui devient intérieur et introduit ses différences, ses tensions, sa tragédie, les conservant en les surmontant, dans la différence d'amour intradivine. Et c'est là que la croix apparaît, comme ce que dit le 7e concile œcuménique, et qu'on ne remarque jamais. L'icône fondamentale de notre Dieu, c'est la croix. Voilà ce que dit la définition du 7e concile œcuménique. La croix révèle le sérieux mortel de l'amour de Dieu. Le sérieux mortel de l'amour issu de la profondeur trinitaire elle-même. En élevant les différences tragiques entre Dieu et le monde, entre Dieu et l'enfer, jusqu'au cœur de sa différence à lui qui embrasse tout. Maintenant, tout est rempli de lumière, chantons-nous dans la nuit de Pâques, le ciel, la terre et l'enfer. Le Fils de Dieu efface le péché du monde, non pas en se tenant à distance et dans l'état de séparation du pur au sens pharisaïque, car justement, parce qu'il est celui qui aime en toute pureté, il se met sans réserve dans la situation de faute et de fatalité de ses frères humains. Il introduit en lui le tragique, il le vit jusqu'au fond, mais dirais-je, avec le long souffle de l'amour qui lui permet de ressusciter pour son Père et pour le monde du sein de l'abandon ténébreux et infernal. Et ce n'est plus alors la mort qui règne, mais l'esprit. Et j'en arrive à mon troisième point, et qui est la trahison partielle de la croix, qui explique bien les choses. Cette trahison, je dirais qu'elle se manifeste, surtout, me semble-t-il, autour de quatre thèmes. Premier thème, ce n'est pas moi qui l'ai crucifié. Second thème, la croix épée. Troisième thème, la croix sans résurrection. Quatrième thème, la croix bijou. Premier thème, ce n'est pas moi qui l'ai crucifié. Être chrétien, c'est se découvrir le meurtrier de Dieu, celui qui crucifie le Christ à travers le meurtre quotidien de l'amour. La croix, c'est cela. Dieu se laisse assassiner par nous, pour nous donner la vie. Dieu se laisse assassiner pour donner la vie à ses assassins. D'où le mystère du retournement, de la conversion, de la métanie et d'abord du oui de Marie. Et à travers notre foi, notre espérance et notre amour, cette actualisation dans le monde du Christ qui vient. Mais c'est une épreuve insupportable. Comprendre cela, c'est mourir. Comprendre cela, c'est mourir à son propre néant. Ce néant devenu monstrueusement existant à travers notre liberté fourvoyée, ce néant devenu haine, ce néant devenu mensonge, devenu calomnie, devenu meurtre et meurtre et meurtre. Alors la grande tentation, ce n'est pas moi, mais qui alors? Et la réponse est tellement simple à travers l'histoire du monde chrétien. Si ce n'est pas moi, qui alors? Eh bien, c'est très simple, ce sont les Juifs. Les Juifs, peuple déicide, les Juifs, Judas. Et on ne comprend plus alors que l'office des deux évangiles au soir du jeudi saint, déjà vendredi, quand il parle des Juifs, quand il parle de Judas, c'est de moi qu'il parle. C'est de ma trahison de l'amour. C'est de l'amour crucifié par moi. Il suffirait de rappeler ici le 25e chapitre de l'évangile selon saint Matthieu, où il est question de celui qui a faim, qui a soif, qui est nu, n'est-ce pas? Et chaque fois que vous avez fait, chaque fois que vous n'avez pas fait, au plus petit, c'est à moi que vous avez fait, c'est à moi que vous n'avez pas fait, dit le Christ. Et il y a eu donc cet aspect tellement étrange de l'histoire du monde de chrétienté, cette étrange crucifixion historique du peuple juif, les pogroms éclatant souvent en Europe orientale après la lecture des 12 évangiles de la Passion. Au point que la mystique juive médiévale avait pu dire « Le serviteur souffrant de Dieu, ce n'est pas leur Jésus. Ce Jésus au nom duquel il nous martyrise, c'est nous, c'est le peuple juif. Mais si douloureux, homme de douleur collective, portant les péchés du monde, jusqu'à ce que des événements récents, je pense à la Palestine, aient montré que le peuple juif aussi peut commettre l'injustice et qu'il a lui aussi besoin d'être sauvé. Mais là, nous touchons la racine d'un péché fondamental. Ce péché fondamental, c'est la quête du bouc émissaire. Le « ce n'est pas moi », toujours repris, le « ce n'est pas moi », c'est l'autre. Et pensez à la scène étonnante dans la Genèse, au moment de la chute, n'est-ce pas? Adam ne se repent pas. Il dit à Dieu, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mis auprès de moi. Ce n'est pas moi, c'est la femme, ce n'est pas moi, c'est toi, en définitive. En somme, c'est la projection sur l'autre de ce que Jung appelle mon ombre, la partie sombre en moi. C'est pourquoi d'ailleurs le racisme si souvent porte sur les hommes à peau sombre, qui appelle beaucoup plus facilement cette projection de l'ombre, la projection sur l'autre de mon angoisse fondamentale, la dénonciation, la disqualification globale d'une catégorie humaine et ces haines collectives, ces haines abstraites qui ont empoisonné notre siècle. Et là, dirais-je, la seule guérison, ce serait des hommes chrétiens, ce serait des communautés chrétiennes surtout qui se sentiraient libérées par la croix. Si le Christ a vaincu la mort, alors je peux me sentir libéré de mon angoisse fondamentale. Alors je n'ai plus besoin de la projeter sur l'autre. Alors je suis libéré de la quête du bouc émissaire. Et s'il y avait comme cela parmi les hommes des communautés où l'on puisse s'accueillir d'une manière désintéressée, se parler et peut-être s'aimer, ce serait, je crois, étonnamment important. Second problème, ce que j'appellerais la croix épée. La noblesse de la chrétienté a été que le signe de la croix ait pu s'imprimer sur le signe de la force terrestre, sur le glaive, pour désacraliser la puissance, et c'est le sens même de la sainteté de Constantin, et pour tenter de la mettre au service de la vie. Et c'est cela, le ministère qui a été voulu par l'Église du roi chrétien, du roi et non pas du tyran, du roi qui par le glaive limite l'extension du mal, du roi qui crée un espace d'ordre et de paix. Pensez au saint prince russe, pensez au chevalier occidental. Mais le drame de la chrétienté, ça a été la tentation de faire de la croix devenue épée, la destructrice de la liberté, alors que la vraie croix fonde notre liberté. Ça a été la tentation d'imposer par l'épée le bien et la vérité. D'où, pendant un millénaire de l'histoire du monde chrétien, les croisades, les guerres de religion, les persécutions des hérétiques jusqu'au bûcher, et finalement le crime de la contre la liberté de l'esprit. Aujourd'hui, bien des dangers subsistent de cette identification dont cependant l'histoire elle-même nous libère peu à peu. On peut certes concevoir encore, n'est-ce pas, l'Église comme un bastion et non pas comme une mission, et les non-chrétiens comme des ennemis à combattre et non pas comme des païens à évangéliser. Peut-être ici le remède est-il tout simple, rejeter une fois pour toutes tout recours à la force de la terre, tout recours à la force de l'État, rejeter inversement la tentation qui, au fond, est exactement dans la même problématique et qui est si fréquente aujourd'hui dans le monde chrétien, de faire du christianisme un mouvement révolutionnaire. Il s'agit de retrouver la certitude fondamentale que le christianisme change les cœurs de pierre en cœurs de chair, et que la loi du Christ s'appelle l'amour des ennemis, et donc avoir recours à l'humble amour, prendre soi-même sa croix, et que l'Église mette au monde des vivants, des ressuscités, pleins de la puissance de la croix et de la résurrection, et capable, dirais-je, de traverser toute la violence de l'histoire par la folie de la croix, luttant en soi contre les racines de l'injustice, luttant contre l'injustice, non pas pour détruire les injustes à la limite, mais pour les transformer. Troisième tentation, la croix sans résurrection. Il y a eu, vous le savez, c'est un thème bien rebattu, je n'y insisterai guère, il y a eu surtout dans le christianisme occidental, mais pas uniquement, il y a eu accentuation de la croix de sang, de l'homme de douleur, au détriment de la croix de victoire, de lumière et de résurrection. Or, nous avons à souligner sans cesse l'unité de la croix et de la résurrection, de même que dans la vie spirituelle, l'unité de la cèse et de la joie. Le grand moine, dans la tradition orthodoxe, est appelé à la fois stavrophore, porteur de la croix, et pneumatophore, porteur de l'esprit. Ainsi, la croix a-t-elle fini pour tant et tant de nos contemporains par signifier tout simplement la mort. Si l'on demande à la plupart des gens d'aujourd'hui ce que signifie pour eux la croix, ils diront la mort, la croix des cimetières. Alors que les chrétiens ont mis des croix sur les tombes des leurs pour signifier que la mort est vaincue, la croix noire des pépins de décès et des pompes funèbres, la croix des récits historiques pour désigner la date d'un décès, faire une croix sur ce qui est perdu, sur ce qui est raté, Jésus, un doux rêveur, un idéaliste, un clown, inévitablement perdant, la croix est l'échec, tant de crucifix où ne pend à l'effet qu'un mort, la morale et la mort se rejoignant dans le lourd crucifix qui s'est longtemps sérigé sur le mur des tribunaux. Alors que la croix, disait saint Maxime le confesseur, c'est le jugement du jugement. Et la terrible dialectique du Père et du Fils intervient alors. La croix va apparaître comme l'assassinat du Fils par le Père. Et après tout, si on prend la conception anselmienne de la rédemption, la nécessité pour Dieu qu'il y ait une victime divine qui seule pourrait apaiser la justice infinie de Dieu, le courroux du Père, on n'est pas tellement loin. Alors apparaît toute la critique de Freud, toute la notion du Père et du Dieu-Père, terroriste et castrateur. La croix apparaît alors comme la garantie de l'autorité sociale, de la hiérarchie, de la gérontocratie, où le Père toujours brime et tue le Fils. Alors, c'est l'inverse de cette dialectique. Et c'est la révolte de notre époque. Et c'est l'antithéisme. Et c'est l'universelle mise à mort du Père par le Fils. Et nous avons à rappeler que la croix signifie l'amour fou de Dieu pour l'homme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que la croix révèle l'amour, et qu'il y a un seul amour du Père, du Fils et de l'Esprit, que la paternité est fondamentalement sacrificielle, et que l'Esprit Saint aussi. se dissimule et comme s'humilie pour nous communiquer la vie, qu'il y a un seul amour. Philarète de Moscou disait au siècle dernier, l'amour crucifiant, l'amour crucifié, l'amour triomphant dans le bois de la croix. Et non pas le Père contre le Fils, et non pas le Fils contre le Père, mais l'Esprit. L'Esprit vivifiant qui vient du Père par le Fils, et qui par le Fils nous ramène au Père. Et le royaume de l'Esprit, où apparaît-il? Mais justement, sur la croix, l'aube de l'Esprit, c'est la croix, c'est cette béance impensable, inimaginable, qui semble, qui s'introduit sur la croix, entre le Père et le Fils, entre Dieu et Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette béance de la mort, cette béance de l'enfer, et soudain, elle est remplie de lumière. Et soudain, c'est la plénitude pascale de la lumière, et c'est le royaume même de l'Esprit. Et dirais-je enfin, quatrième tentation, la croix bijou. C'est peut-être là que se concentre de la manière la plus naïve, n'est-ce pas, un certain nombre de trahisons du monde chrétien. Croix rutilante de pierreries de certains évêques, les vrais étant dans le coffre de la banque, coquille l'épiscopat et une installation, une carrière, un honneur ou une sagesse administrative, une sagesse parisienne, alors qu'il ne peut être rien d'autre que crucifixion et qu'il faudrait nous y traîner comme l'agneau à la boucherie. Et c'était bien un des sens de l'élection du prêtre et de l'évêque dans l'Église ancienne. On les traînait au sacerdoce et à l'épiscopat. La croix des guerriers, elle pouvait avoir un sens, je l'ai dit tout à l'heure. Elle est devenue si souvent la croix des notables, la croix d'honneur et des honorabilités, la croix en chocolat des bons élèves, la croix de la puissance et de la gloire terrestre. Mais bienheureux les pauvres, bienheureux les doux, bienheureux ceux qui pleurent, bienheureux les affamés et assoiffés de justice, bienheureux les persécutés. La croix des jolies filles, après tout, symbole cosmique et sexuel, la verticale virile coupant l'horizontale féminine, une croix innocente comme la chair, mais ce n'est pas, ou ce n'est pas encore, la croix du Christ. La croix des hippies, la croix des superstitieux, porte bonheur, petit sésame, ouvre-toi, des états d'âme délicieux, moins efficaces après tout, petite Marie-Jeanne portative, mais ce n'est pas la croix des grands vigilants, des grands éveillés, de nos saints pères neptiques, la croix qui nous ouvre la sombre ivresse de l'esprit, dont le seul des critères, disait le stavet siloam, est l'amour des ennemis. Alors si le monde considère la croix comme l'emblème de la mort, ou comme l'épée des fanatiques, ou comme le signe de l'assassinat du Fils, ou comme un bijou dérisoire, ne nous étonnons pas, n'accusons pas le monde, faisons pénitence. Et rappelons-nous que pour que la croix soit vivifiante, il faut d'abord qu'elle soit crucifiante. Et j'en arrive enfin au refus d'aujourd'hui. Et là encore, je voudrais dire quatre choses, toujours quatre. Il y a le refus de la culpabilité personnelle. Il y a ensuite ce que j'appellerai les deux versants de l'Himalaya, la Chine au nord et l'Inde au sud, le salut par l'histoire et le salut par la sortie du temps. Il y a enfin, et là je serai très bref, la civilisation sommet. Et d'abord, le refus de la culpabilité personnelle. Le sens de la croix, pour chacun de nous, est lié à la découverte d'un état de séparation. Ce que Saint Jean Denis appelait une vie morte. Un état de péché. Non pas au sens des péchés de poupée, au pluriel, auquel on pourrait répondre, dont on pourrait se purifier par l'observation d'une loi, mais d'une maladie de l'être. Ce que les pères de l'Église appellent l'échec, la mort, l'enfer, ces deux derniers mots désignant des modalités de cet état de séparation d'avec Dieu, de séparation d'avec la création de Dieu, de séparation d'avec le prochain, de séparation d'avec soi-même, au double sens, dirais-je, de durcissement, le cœur de pierre, et de pourrissement, de désintégration. Ce démon qui s'appelle Légion, et nous sommes tous les schizophrènes du démon Légion. Cet état d'aliénation fondamentale,
dont les racines sont dans la profondeur de mon existence personnelle, dans l'abîme du cœur, comme si cette séparation était, et elle est, mon refus de Dieu, mon refus de l'autre, mon refus de mon véritable destin, le refus à la fois de ma finitude, parce que mon être veut l'éternité, et le refus de celui qui seul pourrait en quelque sorte étancher cette soif d'éternité, et la suffisance, et l'idolâtrie, et la haine de l'être, et la haine de soi. Or, la libération que nous offre le christianisme, c'est la descente de Dieu, du Dieu fait homme, jusque dans cette mort-là, jusque dans cet enfer-là, pour les consumer, ou plutôt pour les retourner, pour les transformer en Pâques, en passage vers la plénitude, pour faire de la mort et de tous les états de mort quotidienne une mort résurrection. On ne peut donc s'ouvrir au mystère de la croix que si l'on pressent qu'on a besoin d'être sauvé. Et si l'on pressent de quoi on a besoin d'être sauvé, de quelle mort, de quel enfer. L'expérience de cet éon de néant, de cet éon, de cet âge de nihilisme dans lequel nous sommes entrés en 1914 et en 1917. L'expérience de deux guerres mondiales et des sociétés concentrationnaires a fait brèche dans l'optimisme de l'homme moderne, dans l'attente d'un âge d'or sur la terre par le progrès. De profondes prises de conscience spirituelle sont venues de cette expérience. Déjà pourtant, l'existentialisme athée retrouvait ce que j'ai appelé la croix tragique du héros, pensez surtout à Albert Camus. Et finalement, l'expérience de l'angoisse, l'expérience de l'absurde, l'expérience de la nausée est devenue insupportable à ceux qui n'ont pas su trouver ou à qui nous n'avons pas su annoncer la croix libératrice. D'où la formidable poussée dans la jeunesse occidentale depuis une douzaine d'années vers les doctrines, devenues d'ailleurs des formes de sensibilité qui réduisent le mal spirituel au mal social. Oui, il y a du mal, oui, et tout est dérision, mais en définitive, c'est la faute de cette société, c'est la faute de ses contraintes, c'est la faute de son conditionnement, et la révolution comme mythe messianique apparaît ici comme la fuite même devant la croix. Tous les grands réducteurs du 19e et du début du 20e siècle se rejoignent ici, Marx, Nietzsche et Freud, et l'on sent pointer humblement, chez tous, ou terriblement, la nostalgie d'une sorte d'innocence enfantine. Puisqu'il n'y a pas de péché. Quand j'étais enfant, j'étais innocent. Mais ensuite, nous sont tombés sur la tête toutes ces contraintes de la famille, du travail, de la morale, de la religion. Et alors, j'ai été enseveli dans le mal. Alors, il faut tout détruire et je retrouverai la spontanéité et l'innocence de l'enfance. Et pourtant, si l'on relisait d'un œil simplement chrétien et attentif Marx, Nietzsche et Freud, le dionysisme de Nietzsche est croisé par ce mystère du crucifié dont il n'est jamais arrivé à se libérer, il est devenu fou, et le dernier billet qu'il a signé avant de devenir fou, il l'a signé Dionysos et le crucifié. Et Freud, vieillissant, a découvert, croisant aussi, l'instinct sexuel, il a découvert l'instinct de mort, tout aussi puissant, mystérieuse croix freudienne d'Eros et de Thanatos, de l'amour et de la mort. Quant à l'expérience historique du marxisme, elle illustre plutôt les étranges métamorphoses du mal. Je n'insisterai pas. Je prendrai un exemple curieux. Peu avant sa mort, Lénine découvrit que Staline était une brute, à la suite de la répression de la révolte de la Géorgie. Et il se posa alors une question à laquelle il n'eut pas le temps de répondre. Comment se fait-il que la valeur morale d'un homme ne s'explique pas uniquement par des facteurs sociaux? Et arrive alors à mes deux versants de l'Himalaya. Aujourd'hui, le refus ou l'ignorance de la croix me semble s'exprimer dans deux directions majeures, soit la quête du salut par l'histoire, soit la quête du salut par la sortie du temps, la Chine ou l'Inde. La quête du salut par l'histoire me paraît immergée dans la seule temporalité de schémas spirituels, le schéma judéo-chrétien et le schéma de la résorption des contraires dont la première croix partielle dont je parlais tout à l'heure est le symbole. Le schéma judéo-chrétien. Le prolétariat devient le Christ collectif de l'histoire. Le militant prend sur lui la croix de ce Christ. Mais c'est d'emblée une croix épée. Et ce Messie est un Messie armé qui tient le livre, les écritures, qui s'accroît génération après génération, et l'épée. La révolution est due à l'ultime crucifixion du Messie collectif. Et elle est la véritable résurrection. Au comble de l'aliénation, le prolétariat, par le grand retournement révolutionnaire, récupère son essence humaine et par là ressuscite l'humanité tout entière. Les hommes deviendront transparents les uns aux autres et à l'univers, et l'humanité sera dotée d'une sorte de corps glorieux par la toute-puissance de la technique. Et puis, le schéma de la résorption des contraires, c'est la croix de totalisation mise à l'horizontale de l'histoire, avec le schéma thèse, antithèse, dépassement par la révolution de toutes les contradictions dans une synthèse définitive. Reste bien entendu le mystère du sujet personnel dans son caractère unique, c'est-à-dire le mystère de l'amour et le mystère de la mort. Aimer quelqu'un, a dit Gabriel Marcel, c'est lui dire « tu ne mourras pas ». En supposant à l'histoire tous les triomphes attendus, l'humanité deviendrait bien heureuse, mais on ne ressuscitera pas les morts pour qu'ils goûtent personnellement à cette félicité. Bien plus, chaque homme au sein même de la félicité devra mourir. Et même si la science, comme le suppose Edgar Morin, donnait à l'homme une sorte d'immortalité, la condition de séparation, la condition de mort spirituelle ne serait pas abolie. Une certaine soif, un certain désir ne serait pas aboli. Marx semble n'avoir parlé dans ses écrits de la mort qu'une seule fois, dans les manuscrits de 1844. Et il dit « La mort semble une dure victoire de l'espèce sur les individus. Elle semble contredire leur unité, mais un individu déterminé n'est qu'un être générique déterminé comme tel mortel. Ainsi, l'homme comme être générique, c'est-à-dire l'homme comme humanité, peut seul prétendre à une sorte d'immortalité, mais non la personne. » Un théoricien marxiste français, Jean Babi, depuis maoïste, a écrit un très intéressant ouvrage d'anticipation, très sérieux, qui s'appelle « Un monde meilleur, recherche marxiste ». Il prévoit un certain nombre de choses, je résume brièvement. La disparition de la famille, avec gestion collective des enfants et relations sexuelles libres. Pour ces dernières, le socialisme et l'éducation auront extirpé les sentiments de possession et de jalousie. Chacun disposera d'un studio de célibataire, l'équipement collectif d'immeubles de quartier offrant restaurant, bibliothèque, salle de musique, atelier de bricolage, etc. L'ensemble du tableau peut supposer que les attachements entre individus resteront d'une modération rationnelle, ce qui rendra les deuils moins cruels. L'auteur, d'ailleurs, attribue beaucoup d'importance à la suppression des pompes funèbres, parce que ce sont les entreprises capitalistes qui entretiennent dans un but mercantile les superstitions et les terreurs. D'autre part, chacun sera bien convaincu de survivre par la société dans laquelle il aura incorporé son apport personnel. Enfin et surtout, l'éducation aura appris très tôt que la mort est naturelle, inévitable, nécessaire, et pour familiariser les enfants avec cette idée, on les amènera dans les hôpitaux assister aux agonies. Avec ces mesures et avec quelques citations d'Engels, le sort humain devrait prendre un aspect tout à fait réjouissant. Mais il suffit simplement de lire ce livre, n'est-ce pas, pour savoir que ce n'est pas vrai et que rien de tel ne pourra rassasier notre soif. L'esprit et l'épouse disent bien, que celui qui écoute dise bien, et que l'homme assoiffé s'approche et que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie. Et alors, en face, il y a la quête du salut par la sortie du temps. C'est la vieille croix de réintégration, d'absorption dans l'impersonnel. C'est la quête de l'arrachement à soi-même par l'extase, n'importe quelle extase, destruction, érotisme, drogue, technique orientale du passage à la limite. Ici, il y a la soif, mais il n'y a pas l'incarnation, mais il n'y a pas la transfiguration par la découverte de la plénitude trinitaire. C'est comme s'il fallait, une fois de plus, mettre en croix. Mettre en croix ces deux dimensions, l'exigence d'incarnation dans l'histoire des uns, leur sens de la matière et de l'unité humaine, l'exigence de dépassement et d'extase des autres. Et qui peut croiser ainsi l'histoire et l'éternité, sinon la croix du Christ? Et puis, il y a, bien sûr, la civilisation sommeil. Mais là, est-ce même la peine d'en parler? L'éternelle tentation de puissance et de jouissance. Se remplir, se vider, se remplir encore, les Romains se vomir pour pouvoir se remplir plusieurs fois par jour. Et comme dit le proverbe rapporté par l'apôtre, mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Notre civilisation dans ce domaine, bien qu'on l'appelle civilisation de consommation, du bonheur, etc., n'a absolument rien inventé. Mais bien sûr, elle est radicalement sans finalité. Alors toutes ces choses-là remontent, n'est-ce pas, et s'affirment. Mais nous savons bien que c'est impossible, et que le refus de devenir un pareil bétail somnambulique, bien lavé, bien télévisionné, bien psychanalysé, n'est-ce pas, avec des orgasmes scientifiquement réussis, n'est-ce pas, le refus de tout cela est au fond la clé de toutes les révoltes et de toutes les recherches contemporaines, quand elles sont un peu réelles, un peu authentiques. Alors il nous reste à tenter de témoigner, à tenter d'entrer dans la grande joie. Il ne s'agit même pas qu'elle entre en nous, elle est là, mais que nous entrions en elle, dans l'amour sans limite du crucifié ressuscité. Et vous savez que les deux grandes vertus de la croix, qui sont les deux grandes vertus de la cèse orthodoxe, c'est l'éveil par rapport justement à tous les somnambulismes, et c'est la tendresse. Et ainsi, et je finirai sur cette évocation admirable de la croix d'amour par Paul dans l'Épître aux Éphésiens, ainsi vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez dans la plénitude de Dieu.
Mais il n'a